Amis de Postface, bonjour. Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. C'est de René Char et c'est la première phrase, l'exergue, d'un ouvrage qui s'appelle « L'affinité des traces » et qui est écrit par Gérald Tenenbaum. Bonjour Gérald.
Bonjour.
J'allais dire « vous allez bien » parce que ça ne fait guère que la troisième fois que vous venez à RCJ pour vos ouvrages.
C'est vrai, avec le plus grand plaisir.
Eh bien nous aussi, je crois que nos lecteurs ne seront pas, nos auditeurs et vos futurs lecteurs ne seront pas déçus. Ce livre paraît chez Héloïse d'Ormesson, comme les précédents. Il est magnifique, esthétiquement. Et effectivement, les dunes de sable et l'ombre des Touaregs et des chameaux qui sont évoqués sur la couverture nous font penser à des espaces que nous ne sommes pas tous censés bien connaître. Vous êtes mathématicien, toujours, professeur de mathématiques,
toujours
à l'université.
Résolument.
À l'Institut Raymond Poincaré, si ma mémoire est bonne. Et cette fois-ci, vous nous avez mené dans des espaces très différents, autour de Grenoble, dans vos précédents livres. Mais cette fois-ci, vous nous menez carrément chez les Touaregs et plus particulièrement via l'Algérie, la guerre d'Algérie et une base militaire. Vous êtes trop jeune pour avoir connu cette époque, vous l'avez reconstituée ?
Je l'ai reconstituée à partir de documentation. J'ai travaillé pendant plus d'un an et demi sur la documentation.
Oui, c'est étrange parce que vous avez réussi à tout ce travail à le fondre dans un texte qui est fluide comme le sable, on va le voir. Le personnage principal de votre roman est une jeune femme, donc Edith, qui est juive, et qui se retrouve comme sténo, parce qu'il fallait bien trouver un travail, sténo-dactylo, secrétaire, dans une base militaire française, un petit peu avant les essais nucléaires. Donc là, nous sommes dans le domaine du réel.
Absolument. Et le personnage d'Edith également est dans le domaine du réel, puisqu'elle représente tous ces enfants de déportés qui n'ont pas eu leur chance, qui n'ont pas eu les bonnes cartes dans la vie, et dont j'imagine, dans le cas d'Edith, qu'elle a eu envie de les rebattre, même si dans la réalité, ça ne s'est pas toujours passé comme ça.
Oui, effectivement, une triste réalité parce qu'il y a un flashback dans l'ouvrage qui évoque l'enfance d'Edith et c'est une enfance qui est, disons-le, parfois sordide, parfois même ignoble.
Elle est... C'est une enfance brisée, c'est une enfance cassée, absolument. Oui. Oui.
Et elle réussit à rameuter ce qu'elle a d'âme et de force pour trouver ce travail et pour s'éloigner de ce petit milieu étouffant, finalement, sans dévoiler, qui peut être presque à la limite de l'inceste parfois.
Oui.
Et qui va quand même la laisser partir. Donc elle va partir dans des camions brimballants et se trouver dans un monde complètement étranger. Alors, elle va y tisser des liens. C'est un monde d'hommes.
Oui, bien sûr. Elle est quasiment seule femme dans un univers où il y a plusieurs milliers d'hommes.
Avec l'infirmière arménienne. Une sorte de fraternité, de minorité qui se fait. Et puis, ces deux femmes dans cet univers d'hommes, finalement, vont être respectées. Les gradés, et en particulier le colonel de cette place, va se montrer à la fois intelligent. Enfin, je parle du colonel, parce qu'il y en a d'autres qui sont stupides. Mais le colonel va finalement montrer de l'humanité. Et il y a un problème qui va se poser. C'est-à-dire qu'au fond, cette orpheline qui a donc 23 ans au moment où elle était 59,
oui.
pour la situer très exactement... qui a vécu le carreau du temple, qui a vécu tout ce que nous connaissons. Cette orpheline qui a été chez un confectionneur à Nancy, une ville que vous connaissez bien, confectionneur que vous appelez Japtex, qui sont tout à fait, pour ceux qui connaissent cette époque, des titres des noms qui sont tellement ceux de cette époque et de ces choses de textile.
Il y avait toute une rue à Nancy, il y avait la rue des ponts où il y avait des magasins juifs qui étaient les uns à côté des autres et qui avaient effectivement des noms avec toutes ces consonances-là.
Voilà, pour faire moderne, pour faire américain. Voilà,
absolument.
Et alors vous décrivez d'ailleurs de façon assez acidulée la communauté juive de Nancy de cette époque. C'est un de vos flashbacks, c'est-à-dire que vous avez une description de la communauté juive qui se scinde entre les conservateurs pour être oui, et puis les très gauchistes quand même.
Oui, oui, enfin les juifs communistes, disons. Voilà. Ça se scindait aussi entre sionistes et non sionistes. Et puis il y avait des élections et puis c'était toujours les mêmes qui gagnaient les élections jusqu'il y a eu des scissions. Il y avait une vie politique, un engagement extrêmement intense, des discussions, mais il y avait pas d'anathème. Je veux dire, les gens parlaient entre eux, oui. Mais on se respectait quand même.
Ça, c'est très important. Et ça court dans les souvenirs d'Edith. Et il va y avoir un moment très, très important où Edith va basculer. C'est-à-dire qu'elle va se trouver face donc, à cet univers frontalier de l'Algérie avec... le désert, avec les hommes bleus, puisque l'indigo de leur costume déteint sur leur peau. Ouais. Mais au-delà de cette anecdote que beaucoup d'entre nous connaissaient, vous expliquez qu'ils ont un langage, une langue, le tamashek, qui est très proche du berbère. Oui. Donc, il y a probablement une origine...
Ah ben c'est les premiers les premiers
avant habitants. Avant Antar, c'est Antar, et c'est anté-islamique.
Oui, tout à fait, voilà. Absolument.
Donc ça, vous le montrez très bien, sans nous assommer d'ailleurs, vous le montrez très bien. Et ce qu'il y a d'absolument hallucinant, c'est que vous employez des termes qui finalement se comprennent par le contexte. C'est-à-dire que vous avez réussi à sentir cette langue qui n'a pas les fameuses racines sémitiques que nous connaissons.
Non, ça n'évoque pour nous, aucune racine n'est directement évoquée, mais c'est tout de même, c'est une langue qu'on finit par sentir, comme vous dites.
Alors vraiment, je crois que c'est aussi une forme de liberté, parce que Edith qui a refusé le mariage arrangé, le chatran qui est le rabbin, et donc tout ce qui était prévu pour elle, qui était bien comme il faut, Edith qui a refusé ça se retrouve finalement confrontée à un certain nombre de ses ethnies, de ses clans, de ses tribus. Alors, comment s'y trouve-t-elle confrontée de là où elle est, d'abord? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, d'abord, elle a refusé cet horizon bouché qu'elle avait devant elle dans sa vie, disons à Nancy ou en tout cas en France. Et puis, c'est un de ses amis qui lui dit « Tiens, il y a un concours, tu pourrais te présenter et puis tu pourrais voir d'autres horizons. » Et c'est ce mot d'horizon qui déclenche chez elle cette fuite en avant. Elle part. Je veux dire, elle refuse ce destin qu'on a tracé pour elle et elle se retrouve donc sur cette base au contact de l'altérité, la vraie elle qui avait toujours été finalement l'étrangère, y compris l'étrangère dans sa propre vie. Eh bien, elle va découvrir des étrangers encore plus étrangers, encore plus étranges, mais avec lesquelles elle va trouver des convergences, elle va trouver en Mariama, donc la mère de cette famille Touareg, elle va trouver une mère qu'elle choisit, elle qui a eu tellement de mères dans sa vie qu'elle appelait des mâmes parce qu'il manque toujours quelque chose, parce que c'était des mères à qui il manquait quelque chose. Eh bien, elle va se trouver vis-à-vis de cette femme, elle va avoir un véritable sentiment filial jusqu'à avoir le désir de l'accompagner et lui demander de lui apprendre à parler. C'est ce que fait une mère.
C'est magnifique, effectivement, et c'est dans le Hogar, au nord de Taman Rasset, à partir de cette base, à la direction des applications militaires.
Voilà, c'est la deuxième base militaire. Donc, il y avait les premiers essais nucléaires de la France dans le Grand Sud algérien, dans le Sahara, était à Régane. Et puis, ensuite, on a fait des essais souterrains à Inéker. Et c'est à cet endroit-là que Edith se retrouve.
Alors, c'est très important pour nos auditeurs les plus jeunes. Bien entendu, c'est avant les accords d'Évian, c'est pendant les événements de la guerre dite d'Algérie. Et vous avez minutieusement reconstitué ces essais.
J'ai reconstitué ces essais. J'ai interviewé des survivants de ces essais. Et c'est vrai que c'est un épisode qui est peu connu de la guerre d'Algérie. Alors d'abord, bon, dans ce grand sud algérien, la guerre finalement était très peu présente. Et tous les gens qui parlent de cette époque disent oui, c'est vrai, on était en guerre. Mais eux ne vivaient pas la guerre de ce point de vue-là. Cela dit, du point de vue des accords d'Évian, c'était essentiel. Et la négociation d'Évian a chopé très longtemps sur la poursuite possible de ces essais nucléaires, puisqu'il s'agissait de demander à un pays qui allait devenir indépendant qu'une puissance étrangère, donc la France, puisse continuer des essais. Et donc c'était un point extrêmement important. Et le fait est que la France a continué pendant plus de 5 ans les essais nucléaires dans une Algérie indépendante.
Tout à fait. Ça, il était important de le rappeler. Donc, Edith poursuit son destin. Elle rencontre Mariama, cette mère mame dont vous venez de parler. Il y a quelques scènes tout à fait bouleversantes sur la féminité, sur la solitude, mais je laisse au lecteur le soin et aux lectrices le soin de les découvrir, qui sont à la fois extrêmement pudiques et extrêmement bouleversantes. Je trouve que vous y avez réussi, c'est une gageure et qu'un homme puisse réussir à écrire comme ça sur une femme, c'est aussi une gageure. Donc retenons aussi que cette fois, vous avez un personnage principal peut-être plus en avant que dans vos autres œuvres, me semble-t-il. Ce personnage, en tout cas, est porteuse de la recherche féminine, du plaisir, de la quête. Et je trouve que ça, vous le décrivez comme jamais. Donc, dans cette affinité des traces, je voudrais quand même un tout petit peu, si vous le permettez, expliquer grâce à vous ce titre à ce moment de notre entretien. Comme si à plusieurs centaines de mètres d'altitude, la terre desséchée lui lançait un appel. Tu marcheras ici, oui, c'est ici, sur ce sol étranger, que tes pas laisseront leurs traces. Car les traces, comme les hommes, ont leur disposition secrète. Tu verras. Sur le sable même, sur le sable surtout, une trace peut en rejoindre une autre. C'est l'impérissable, l'inaltérable magie propre aux traces. Leur mystérieuse alchimie, c'est l'ineffable affinité des traces. Je crois qu'on est au cœur de cette découverte-là précisément, au cœur du basculement. Alors, elle bascule effectivement avec cette rencontre à l'infirmerie et elle va donc carrément quitter cette base.
Oui, elle va quitter cette base, c'est d'ailleurs pas sans regret, pas sans hésitation, elle a une identité, un des point important que j'ai travaillé pendant toute l'écriture de ce roman, c'est de savoir comment on pouvait embrasser une autre culture tout en conservant la sienne. Edith reste juive jusqu'au bout, elle reste ce qu'elle est, et c'est pas parce qu'elle rencontre cette autre culture, parce qu'elle apprend cette autre langue, parce qu'elle vit comme peuvent vivre ces personnes, qu'elle oublie tout ce qu'elle a été.
C'est frappant. D'ailleurs, dans certaines notions métaphysiques, philosophiques, que vous décrivez sans jamais vous appesantir, moi j'ai trouvé que, par exemple, la chaque, c'était un peu la neshama juive, c'est-à-dire l'âme. On trouve une sorte de recherche comme ça d'une totalité de l'âme, même si, bien entendu, vous décrivez, et ça distrait, ça divertit le lecteur de l'affinité des traces, le tendé, le tambour, l'imzad, le violon, enfin, tout tous ces instruments, mais vous tendez quand même vers cette reconstitution de l'être, cette constitution de l'être.
Absolument, et j'ai été bouleversé dans mon travail de documentation de voir à quel point il y avait convergence entre le peuple Touareg et le peuple juif. Alors ça, c'était vraiment une surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai que moi, je connaissais très peu de choses des Touaregs, enfin, ce que tout le monde en connaît, quelques images d'Épinal. C'est un peuple en diaspora, c'est un peuple qui vit sur une tradition orale, c'est un peuple qui véhicule des valeurs morales. Il y a énormément de choses, et c'est vrai que la convergence dont vous parlez entre l'achak, donc qui est le mode de vie, la neshoumé juive, c'est vrai qu'il y a une parenté.
Alors effectivement, cette parenté, vous allez la filer dans d'autres notions comme le temps. Vous avez des formules qui sont d'une beauté frappante, une simple ligne comme ça piquée par hasard. Lorsque Edith et Sévan, là, son amie infirmière, s'assoient l'une à côté de l'autre, vous écrivez. Entrée par hasard, le temps s'assied et se repose un soupir auprès des deux jeunes femmes. Je ne sais pas si vous... Enfin, je suis sûr que vous êtes romancier, mais j'ose dire qu'il y a des moments de poésie et de grâce pure dans ce livre, qui sont très rares aujourd'hui, très rares. Et même si vous restez, entre guillemets, mathématicien, vous parlez de la géométrie, de l'âme humaine, vous parlez, nous sommes tissés de cette concurrence, façonnés de cette mutualité, nous sommes le lierre accroché à cette grille, ceux qui échouent à le comprendre sont à jamais étrangers à la géométrie de l'âme humaine. C'est-à-dire que tout en restant géomètre, vous êtes aussi très finement un danseur, un poète, d'une infinie élégance, d'une infinie légèreté. Autre chose que va vivre Edith, qui va finir par changer de nom, puisqu'elle va s'appeler... Oui. On peut le dire, elle va s'appeler Talia, donc tout en gardant effectivement ses racines, elle va s'appeler un jour autrement. Il y a des moments tout à fait bouleversants où la toilette funéraire, par exemple, des Touaregs est très proche. Façon de vivre la mort est très proche. La mort est file dans ce livre comme dans la vie, donc partout. Et là encore, il y a convergence. Mais justement... Ce qui est très intéressant, c'est que les femmes, bizarrement, contrairement aux idées peut-être reçues, aux stéréotypes, ont le pouvoir. C'est-à-dire que, en même temps que la recherche de son identité, Edith Taliat va trouver la profonde dimension de la féminité, c'est-à-dire dans un sens le pouvoir.
C'est vrai que ça a été aussi une des grandes surprises de ma documentation sur les Touaregs, c'est que les Touaregs sont le seul peuple en Afrique où la femme n'est pas voilée, c'est l'homme qui est voilé, la parole aussi est voilée, c'est aussi quelque chose dont je me suis senti très proche. La place de la femme, disons, la femme a une grande autonomie dans le monde Touareg, et c'est vrai que Edith, qui finalement souffrait de ce manque d'autonomie, au moment où elle part, c'est parce qu'on veut la marier, on veut la faire entrer un peu de force dans un moule qui n'est pas le sien ou qu'elle ne reconnaît pas comme le sien, trouve dans la place de la femme dans ce pays Touareg une place qui lui convient.
Elle la trouve très bien, elle la trouve très bon, par l'amour d'abord, pour un homme qui malheureusement ne restera pas longtemps là, sur cette terre en tout cas. Et puis elle la trouve ensuite de façon différente avec un autre. Et petit à petit, effectivement, elle se construit. Et Taliat, la parole aussi est voilée, enfin Taliat, celle qui est comme,
ça c'est un nom extraordinaire qui est propre aux Touareg. C'est vrai qu'elle arrive chez eux, elle dit « je veux être comme vous ». Et on lui donne ce nom, c'est toi, tu es celle qui est comme.
Alors évidemment, on peut se poser quand y avoir lu, parce que quand on vous a lu, on est absolument emporté par ce vertige et par cette poésie. Mais on peut se poser à froid, le lecteur pourrait se poser à froid la question, mais qu'allait-il faire, non pas dans cette galère, mais dans cette contrée? C'est-à-dire que je continue à me poser la question, mais qui a quoi? Qu'est-ce qui a poussé Gérald Tenenbaum, mathématicien, homme du monde au sens d'une vision ouverte, nancéen juif, peut-être dans un ordre différent, à aller marcher dans le sable du désert?
Je poursuis une réflexion depuis des années sur l'identité, sur la mémoire, sur les blessures individuelles. Et j'ai eu envie, genre, quand on voit l'évolution aujourd'hui, les barrières qui peuvent se dresser entre les communautés, j'ai eu envie de décrire une histoire d'accueil de l'étranger qui est fondée en fait sur le livre de Ruth, puisque le livre de Ruth est une sorte de constante, est une sorte de canevas de ce livre. Et j'ai évidemment inversé, puisque je pense qu'il n'existe pas de littérature sans transposition, j'ai inversé la situation par rapport au livre de Ruth, et c'est donc une jeune femme juive, alors que dans le livre de Ruth, c'est une Moabite, donc une Palestinienne, oui, qui est accueillie chez les Hébreux. Là, c'est une jeune femme juive qui est accueillie dans un peuple totalement différent. Et cet accueil de l'étranger, pour lui donner une place centrale, pour lui donner le plus beau siège dans le salon, c'est ça qui m'a ému, et c'est ça qui est surtout de trouver dans le texte biblique, bon, qui a 3500 ans, de trouver cette mise en garde contre le communautarisme. Je me suis dit que, voilà, il fallait construire une histoire qui ait ces résonances-là, parce que nous sommes tous, ça fait vraiment partie de notre vie, construire une histoire qui rappelle ces dangers et qui donne un exemple positif. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de la littérature est dans le dénigrement et dans la dérision. On n'affirme plus les valeurs, on se contente de se moquer des valeurs des autres. Ben moi, je prends mes responsabilités, je prends le risque et je décris des valeurs positives.
C'est un grand courage, et d'ailleurs, je ne le fais jamais, mais moi je remercie RCJ de nous permettre de nous entretenir aussi librement. Je trouve que c'est très bien qu'une radio, entre guillemets, où le mot communauté figure, s'ouvre, et grâce à vous en particulier, s'ouvre à d'autres choses. J'ai encore un petit élément d'explication. Vous écrivez, je crois que c'est page 169 de votre ouvrage, « L'affinité des traces ». Vous écrivez « Le désert est un creuset où se mêlent le temps et l'espace. De cette conjugaison silencieuse naît une autre conception de la personne humaine, invitée sur la terre et qui ne saurait rien posséder. » Presque tout est dit, là.
Oui, beaucoup de choses sont dites, et c'est vrai que j'ai toujours une prédilection pour ces endroits du monde où la nature est dangereuse et où la solidarité est un impératif catégorique. Dans le livre précédent, je parlais de la montagne, j'aurais pu parler de la mer, et là, c'est vrai que dans le désert, l'autre est essentiel, parce que si vous ne faites pas attention à l'autre, eh bien, tout simplement, vous mourrez.
Il y a comme un écho du Petit Prince aussi.
Oui, le Petit Prince, bien sûr, le Petit Prince. Alors, à la fois, bon, dans l'aventure, puisque bon, le livre se place dans le désert, et puis même peut-être dans le type de littérature, mi-chemin entre la poésie et le romanesque. Et puis, le Petit Prince fait aussi partie des lectures d'Edith.
C'est son livre,
un de ses livres de chevet. Qu'elle emporte.
Et bizarrement, à un moment, sans tout dévoiler, il y a une histoire de serpent qui pourrait être tragique, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Et qui est un petit peu en écho du Apprivoise-moi, ou du Exactement, Rassassin voilà, Renard, mais du serpent.
Du serpent, finalement. Et c'est cette piqûre de serpent qui fait finalement basculer Edith d'un monde à l'autre.
Voilà. Je crois que nous pouvons probablement conclure sur ce magnifique ouvrage, L'affinité des traces, de Gérald Tenenbaum, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, comme je le fais toujours, je donne le prix, non pas par matérialisme, mais pour montrer qu'un livre, ce n'est pas cher. Il vaut 18 euros, et croyez-moi, ce seront des nuits entières de rêves que vous aurez grâce à Gérald Tenenbaum. Je voudrais conclure, non pas du tout sur l'imbroglio politique et l'angoisse que peuvent vivre en ce moment les différentes fratrie ou non-fratrie Touareg, avec le Mali, avec tout ce qui se passe là-bas. Je crois que ce n'est pas du tout le sujet de ce livre et que ce serait un contresens que de l'avoir en tête. En revanche, je vais citer deux phrases, l'une d'une libraire à Poitiers qui s'appelle Marie Michaud et l'autre d'une journaliste de Sud-Ouest, Isabelle de Montverge aussi, je crois.
Exactement.
La première est donc celle de Marie Michaud qui écrit « Au cœur du désert naît parfois une rose des sables, trésor simple à la beauté authentique. De roman en roman, Gérald Tenenbaum creuse son sillon, celui d'un écrivain discret, humaniste et poète. Une ode à la simplicité, à l'amour, à la vie, à la liberté. » C'est la première phrase et la seconde sur laquelle j'aimerais que nous nous quittions, peut-être en rêvant, peut-être doucement, peut-être comme les pas dans le sable de Gérald et les nôtres qui le suivront. Une écriture mélodieuse et fluide comme le sable, fascinant.